Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir, ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques. Pour cette première émission et entrée en matière, il nous faut tout d'abord faire connaissance. Commençons par notre journaliste Lucie Aubin. Bonjour Lucie.
Bonjour Titane.
Comment s'est passé votre cheminement jusqu'au journalisme et pourquoi ce choix spécifique de permaculture? Quels sont les signes qui vous ont poussé dans ce domaine? Et pas seulement puisque vous faites déjà de la radio par ailleurs.
Alors mon cheminement vers le journalisme, il a été un petit peu détourné. Je suis passée par l'université à Nantes, un cursus en lettres et puis ensuite une spécification information et communication. Le choix spécifique de la permaculture, je dirais que c'est pas vraiment la permaculture en particulier que j'ai choisi, mais plutôt des initiatives de gens, de citoyens, ou pas seulement de citoyens, ça peut être d'institutions, mais qui proposent d'autres façons de s'organiser en société, de rendre une vie un peu plus humaine et aussi plus belle pour la planète. Donc en fait, je m'intéresse beaucoup aux initiatives dans le domaine de l'environnement, de la citoyenneté, des transports.
C'est un cheminement où l'on cherche encore la façon de faire. Il y a les mots, mais qui ne sont pas toujours utilisés pour la même chose. C'est-à-dire que environnement, on l'utilise à travers et contre tout.
Oui. L'idée, en fait, moi, je suis plutôt curieuse d'initiatives qui sont concrètes, qui sont quand même expérimentées réellement par des gens. Et pour voir vraiment ce que ça peut donner sur le long ou le moyen terme, ou même des fois le très court terme. Des fois, c'est des choses qui démarrent. Mais je suis curieuse d'expérimentation et de propositions un petit peu nouvelles et qui sont plus respectueuses de la nature, de l'homme, du lien entre tout.
C'est votre curiosité de journaliste, là?
Oui, et aussi de militante, un petit peu, je dois dire.
Militante? Oula, ça fait peur, ça.
Oui, ça fait un peu peur.
Comment tu définis ta militance? Tu la définirais comment?
Oui. En fait, je suis venue à ces questionnements par le biais d'engagements associatifs divers. Et ma militance, je la définis à la fois par l'action, si je peux en avoir une, mais je considère qu'avoir une action en montrant ce que d'autres personnes expérimentent et en partageant en fait ce que des gens au sens large peuvent tester, c'est une façon de montrer qu'il y a d'autres façons de s'organiser possibles, et plutôt que des modèles qu'on peut avoir en tête facilement.
Donc quand tu parles de militance, c'est pas forcément une militance dans un parti ou dans une association, c'est plus par ton action quotidienne que tu entends la militance?
Oui, on peut le dire comme ça, par une action quotidienne et une action qui n'est pas forcément coup de poing, comme on peut souvent entendre le mot militant.
Et du coup, dans ton vécu personnel... Parce que là, tu parles de ton versant professionnel. Si tu parles de la médiatisation des initiatives, on va dire, de transition, de choses comme ça, d'amélioration environnementale, mais toi, à titre personnel, dans quelle mesure quels sont les axes que tu as toi-même mis en place en dehors de ta vie professionnelle pour changer ?
Alors, très concrètement, je privilégie les transports doux, le vélo ou les transports en commun quand il y a des trop longs voyages à faire. Dans mon alimentation, je choisis des circuits courts, des produits alors bio et locaux, si possible. Pour l'instant, mon mode de vie, le fait que je ne sois pas encore vraiment installée dans une maison à moi, me permet pas de faire certains choix que j'aimerais faire par ailleurs. Je pense notamment au niveau de l'énergie. Mais voilà, j'y pense et je m'informe. Pareil, l'information, choisir une information autre que l'information générale que les grands médias auxquels on peut facilement avoir accès, c'est aussi une autre forme de militance que je mets en place. Ce sont des exemples.
Et vous, Floem Sève, qui créez une émission engagée dans la permaculture, d'où vous vient cette envie de création bien particulière? Un sentiment de vous connecter aux autres, de faire passer un message? Est-ce que c'est un peu le même cheminement que Lucie?
Moi, mon cheminement, il est probablement un petit peu différent parce que, de ce que je sais de Lucie, elle a d'abord fait de la com et ensuite elle a eu elle me fait une drôle de tête, c'est que donc ça doit pas être ça, mais je veux bien qu'il me détrompe.
J'attends la fin de ta phrase.
Elle a commencé par la com et ensuite elle s'est spécialisée dans le domaine environnemental et les questions là. Non, elle me fait une tête.
Alors,
qui veut dire
non. Alors pas tout à fait. Ouais, j'avais déjà des engagements associatifs, particulièrement dans le domaine du vélo. Et c'est ensuite, en fait, c'est en ayant travaillé dans une association qui promeut l'usage du vélo.
Elle s'appelait comment ?
Vélo Campus, à Nantes, une association étudiante. Et c'est en travaillant là que j'ai commencé à faire de la communication. Et c'est en fait pour trouver du travail ensuite que j'ai repris un master et c'est ensuite par d'autres expériences dans le journalisme que je suis venue au journalisme. Et c'est après par là, particulièrement en découvrant un journal qui s'appelle L'Âge de Fer, FIRE, que j'ai vraiment trouvé l'intérêt de relayer des initiatives concrètes, positives. Ça, c'est la ligne du journal, mais c'est vrai que ça éveille la curiosité.
Alors moi, du coup, de mon côté, c'est pas si différent que ça, parce que moi, j'ai commencé à m'intéresser aux questions environnementales assez tôt, et notamment par mon côté professionnel. J'étais professeur de SVT, j'ai décidé très très tôt que je voulais être professeur de SVT, ce qui n'était pas une grande réussite, très honnêtement, mais j'ai commencé par faire un lycée agricole, des études qui étaient empreintes de ruralité, on va dire, bien que ce soit des études générales. J'ai fait des études de biologie, géologie, tout ce qu'il fallait pour être prof de SVT. Et une fois que j'ai été prof de SVT, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Je pense que au bout de 3 mois, j'étais en dépression, ça l'a pas fait du tout. Donc je suis parti et je me suis reconverti. J'ai commencé à faire un peu de thérapie, des choses comme ça. Et puis, une fois qu'on a remis en question un certain nombre de choses un peu fondatrices dans sa vie, la vie professionnelle par exemple, c'est assez fondateur, souvent ça occupe beaucoup. Bon, y a d'autres choses que j'ai remis en question. Ben, la porte des remises en question étant ouverte, j'ai commencé à remettre en question mon mode de vie, à questionner les questions de l'énergie. Enfin, je pense que j'étais comme tout le monde à un moment. Je me disais, c'est bizarre que j'entende autant de gens qui poussent des cris d'orfraie sur l'environnement. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions, à réfléchir, et puis essayer de trouver juste des solutions. Pour moi, à la base, j'avais un engagement associatif par ailleurs, militant, dans les questions d'orientation sexuelle, de féminisme, de choses comme ça. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une action qui était possible, mais que ça avait aussi ses limites, que ça passait par le changer soi-même, par faire des choses soi-même. Donc je pense que l'action collective est au moins aussi importante que l'action individuelle. L'action collective, pour moi, c'est aussi participer à ce type d'émission. L'action individuelle, ça consiste à changer des choses dans la vie. Et dans ce cadre-là, à un moment, j'ai rencontré la permaculture. Auprès de Anne Derouet, qui travaillait à ce moment-là, qui faisait des stages à Passerelle Éco. Et quand j'ai découvert ça, ça a juste fait ah mon Dieu, une pièce de puzzle qui vient ajouter chaque chose. Parce que dans l'alternative, en fait, on a souvent, ou dans la décroissance, on dit ben c'est difficile de faire la connexion entre tous les éléments. On en parlera probablement ici, entre la question de l'agriculture, des pratiques alternatives en termes de médias, des pratiques alternatives en termes de j'en sais rien, d'éducation ou même de vêtements. La permaculture, moi, ça m'a juste permis de mettre cette pièce centrale, puisque je pense qu'on en reparlera encore, mais l'éthique, c'est ce qui définit pour moi la permaculture, c'est la transmission d'une certaine forme d'éthique, qui du coup touche à tous les domaines. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivé, en me posant des questions sur moi et en ayant une recherche de quelque chose de systémique qui fonctionne dans tous les domaines. Et du coup, une fois que j'ai découvert ce truc-là, je me disais « Waouh ! Ah, c'est ça !» Ben, j'ai pas traîné. À la fin de ce stage, il y avait. Je crois qu'elle faisait quelque chose à Anne qui était très bien. Elle disait : c'est quoi votre première action pour rentrer en permaculture ? Et je crois que j'avais dit : je vais débrancher mon frigo. Et puis je l'ai fait. Et puis ça m'a pris un mois pour le faire, pour réfléchir à comment j'allais pouvoir le faire. Mais c'était ça qui me consommait le plus d'énergie dans mon environnement électrique. Et puis voilà. Et puis ça, voilà, j'ai rebranché le frigo depuis, il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, parce que ma vie a encore changé, mais ça a été à partir de ce moment-là, c'était une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Comme moi je le dis maintenant dans mes propres cours en perma, l'important c'est de commencer par quelque chose et puis ensuite de jamais s'arrêter.
C'est d'expérimenter en fait et de voir jusqu'où on peut aller et comment on se sent soi-même en relation avec la nature, la ville et la société.
C'est pas seulement expérimenter, pour moi c'est expérimenter et puis bétonner d'une certaine manière le truc. C'est-à-dire que expérimenter c'est une chose, c'est-à-dire expérimenter le vélo le samedi après-midi c'est une chose, c'est une qui me paraît encore meilleure de se dire de le faire le samedi après-midi, ça me donne envie de le faire le lundi. De le faire le lundi, ça me donne envie d'aller au boulot en vélo et puis ça me donne envie de ne plus avoir de voiture par exemple. L'expérimentation, pour moi, elle n'a de sens que si elle est dans une optique de progrès constant vers un plus grand respect des hommes, de la nature et du partage de l'abondance. Donc, ce n'est pas juste de l'expérimentation, c'est aussi du changement très pragmatique, en même temps qu'un changement moins pragmatique intérieur qui va, parce que chaque fois, on va toucher des peurs, on va toucher des cordes sensibles, de l'éducation. Donc, les deux sont souvent en connexion. Ça va plus loin que l'expérimentation. C'est vraiment dans une optique de changement à long terme.
On se met de temps en temps en insécurité.
Ah ben souvent. Souvent. Enfin moi je me souviens de mon premier là, quand j'ai fait ce que j'ai appelé mon mois végétarien. C'était en 2011. C'est là que je me suis rendu compte que c'était une grosse dépendance la viande pour moi et que tous les gens au bout du mois me disaient mais reprends, t'es insupportable. J'étais comme un fumeur qui avait arrêté la clope et enfin le truc qui m'avait plus marqué c'était qu'un jour je me suis retrouvé avec du jambon rose là au supermarché dans mon panier à la caisse alors je me souvenais pas d'être passé au rayon rose du jambon et je me souvenais pas de l'avoir pris et là, je me suis dit oula il y a un truc qui touche à un petit peu plus que juste changer comme ça pouf pouf il suffit que j'en mange pas et puis tout ira mieux et en fait non le changement il y a des choses qui sont un peu plus profondes que juste au niveau du comportement il y a des capacités à développer des croyances et des points de vue à développer sur soi-même pour être en harmonie avec son identité, quoi. Mais c'est loin d'être juste « tiens, je vais faire ça ». Il y a du boulot.
Être en harmonie, ça change aussi si on est citadin ou si on est rural. J'imagine, c'est vrai que lorsque l'on habite dans une cité, on a plus de moyens, de bus et autres, que peut-être dans le milieu rural, c'est plus difficile.
C'est pas la même vie. C'est une des choses qui m'avait plu avec la permaculture, c'est qu'en fait, on a un cadre de réflexion pour quel que soit l'endroit où on est. Alors moi, je suis typiquement urbain. Après quelques années, j'ai compris, j'avais des rêves de ruralité. Mais en fait, j'adore prendre le train, oui. J'aime bien sortir, aller à la MJC, voir un spectacle de temps en temps. Donc j'ai un mode de vie urbain. Et en fait, ma transition permaculturelle ne ressemble pas du tout à celle de quelqu'un qui va être en campagne. Mais pour autant, ça peut aussi, enfin, j'ai ma recherche d'harmonie, j'ai ma recherche d'équilibre. C'est juste une autre manière de le faire. En ville, la ressource principale, c'est les êtres humains. Donc moi, je sais que l'essentiel de mon travail, il consiste à mettre en connexion les gens, à faire en sorte qu'ils s'apportent mutuellement des choses, qu'ils créent de l'abondance, et pas qu'ils soient... L'idée, ça va pas forcément être de cultiver énormément sur des hectares et de la forêt. L'idée, ça va être de connecter ce qui existe déjà et de faire en sorte que les énergies se mettent ensemble sans se détruire. Ce qu'on fait aussi en campagne, mais avec d'autres éléments du système, tout simplement.
Il faudra me dire, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est plus dur, ne fût-ce que pour le déplacement.
C'est un autre mode de vie.
Thank you.
sur Couleur FM 97.1 avec nos amis de l'équipe de choc, Hélène, Floem et Lucie. Nous venons d'entendre Camille Berthaud dans Envie de l'album du même nom. Je voulais vous faire découvrir cette chanteuse connectée et la critique de Alex Dutille de France Musique conforte mon choix. Voilà ce qu'il dit, avec une virtuosité époustouflante et des paroles raffinées, mais ne dédaignant pas une pointe d'humour, c'est déjà un grand talent. Passons au talent d'écriture par Hélène Hollard, que l'on n'a pas encore entendu. Vous-même, Hélène, vous avez un cheminement bien particulier, mais toujours tendant vers une logique à long terme. Vous devenez infirmière et vous vous spécialisez dans la médecine tropicale. Vous avez déjà là un but bien précis en poursuivant un BTS agricole. Racontez-nous votre parcours qui vous amène jusqu'à coécrire le livre « L'agroécologie, cultivons la vie » aux éditions Sang de la Terre, qui a été actualisé et complété par une nouvelle édition « L'agroécologie, une réponse locale et globale ».
Donc, j'ai peut-être pas commencé au début, mais ça sera un peu long.
Comme vous voulez. Hélène.
Non, mais de quand j'étais infirmière, quoi. Parce que moi, j'ai été infirmière parce que j'ai pas pu faire médecine. Enfin, j'ai échoué. J'ai fait deux premières années, j'ai échoué. Et en fait, ce que je voulais, c'était travailler en Afrique. Donc ensuite, j'ai fait les études d'infirmière, mais dans l'objectif de partir en Afrique. Et une fois que j'étais infirmière, donc je me suis spécialisée en médecine tropicale parce que je suis assez entêtée, on va dire, pour dire le côté positif des choses.
Nul,
non, ça c'est le côté négatif. Moi, je suis entêtée, persévérante.
Ah oui, pardon, c'est pas, tu es déterminée.
Voilà, donc j'ai fait des études, je suis allée jusqu'en Belgique à Anvers, parce que là-bas il y a une école internationale de médecine tropicale qui est faite en français. Donc moi, je ne parle pas du tout anglais. C'est une langue qui ne m'attirait pas, on va dire. Ça commence, je me réconcilie un peu avec. Donc je suis partie là-bas. Et en fait, là-bas, ce que j'ai découvert le plus que les insectes, les maladies et tout ça, c'est vraiment l'approche globale de la santé. C'est-à-dire, par exemple, c'est là que j'ai découvert... Moi, je suis grenobloise d'origine. Ben, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait de l'eau potable dans les toilettes. Et ça ne m'avait jamais choqué jusqu'à ce moment-là, quoi. Et là, ça, je me suis dit, mais c'est vrai, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Enfin voilà, ça m'a mis le doigt sur beaucoup de choses. Et en particulier sur l'approche globale de la santé, c'est-à-dire que la santé, si on a un environnement qui est détruit, si on n'a rien à manger, la santé, ce n'est pas juste l'approche médicale, on va dire, de la santé, alors que dans le métier d'infirmière, c'est beaucoup ça. Donc une fois que j'ai fini ces études-là, je me suis dit, je vais chercher à travailler en Afrique, je vais chercher un employeur qui ait cette approche globale-là, et je n'ai jamais trouvé. Donc tout le monde me disait, il faut vous spécialiser dans telle chose, dans telle autre, et moi c'est pas ça qui m'intéressait. Donc du coup je suis partie comme ça, je suis allée en Haute-Volta, et là ça a été un gros choc pour moi, parce que justement ça m'a sauté aux yeux qu'en fait la santé c'est pas la maladie, c'est pas qu'est-ce qu'on fait quand on est malade, c'est comment rester en bonne santé. Et comment on peut rester en bonne santé s'il n'y a plus d'arbres, s'il n'y a plus d'herbes, s'il n'y a plus d'animaux, enfin si tout l'environnement est détruit. Si on a à manger qu'une fois tous les trois jours, ou en tout cas pas souvent, et toujours la même chose. Enfin, donc tout l'aspect alimentation aussi, ça m'a beaucoup frappée. Et donc quand je suis rentrée, après ça a mis un certain temps, mais j'ai décidé de changer de métier et d'aller vers l'agriculture. Donc moi je suis originaire de la montagne, j'ai toujours été avec des vaches, avec des agriculteurs, c'est un monde que j'aime. Je pense que je suis quand même une rurale dans l'âme, quoi. J'ai besoin d'être dans la nature et tout ça. Et donc... une fois que j'ai pris tout ce temps de cheminer, j'ai fait un BTS agricole dans un des seuls établissements qui acceptait quelqu'un qui ne vienne pas du monde agricole, parce que c'est un monde très fermé. Donc moi, j'avais mon diplôme d'infirmière et puis c'est tout. Donc il y a une école à côté de Paris qui m'a acceptée parce que j'étais motivée et que j'avais assez de neurones branchés pour apprendre. Donc ils ont dit « bon, bah, ok ». Donc j'ai fait cette formation, et donc là j'étais plus dépaysée encore que quand j'étais en Afrique, parce que j'ai découvert la Picardie, avec blé, betterave, maïs comme assolement. Heureusement, j'allais faire mon stage pratique, parce qu'on a pas mal de stages pratiques. Je partais dans les Hautes-Alpes, et là j'ai découvert la biodynamie, donc biodynamie, on en reparlera sûrement un jour ou l'autre.
mais c'est une approche sensible, on va dire, de l'agriculture. Et c'était des gens qui faisaient du fromage de chèvre et du maraîchage. Donc j'ai découvert le compostage, j'ai découvert vraiment une autre approche de l'agriculture. Et heureusement, enfin du coup, j'ai été jusqu'au bout de mon BTS. Et une fois que j'ai eu mon BTS, j'ai recommencé à chercher à partir en Afrique avec ce BTS dans le monde agricole pour travailler sur l'aspect pour ben voilà, pour faire de l'agriculture de production, avec, enfin production vivrière avec les gens, quoi. Et je me suis heurtée exactement aux mêmes choses que dans le monde de la santé, c'est-à-dire au laboratoire, à la spécialisation. Mais alors, ce qui était drôle, c'est que les gens, je les regardais, je leur disais, voilà, je veux partir en Afrique, parce que moi, c'est l'Afrique, bon. Et je disais, voilà, je veux partir là-bas, parce que l'environnement, la santé, l'alimentation, tout ça, ça va ensemble. Et les gens me faisaient en général un grand sourire. Et en fait, je me suis rendu compte un peu après, parce que sur le moment, ça m'énervait. En fait, je me suis rendu compte qu'ils me regardaient en disant, ah, ben, c'est bien de rêver, ma petite... Enfin, à l'époque, j'étais plus jeune, évidemment. Donc, c'était en 81, ça. Et les gens me disaient, ah, ben, c'est bien de rêver, mais vous verrez, la vie, c'est dur, il faut vous adapter. Vous voyez, faire casser ce rêve-là. Et je les regardais sourire et je me disais, ben, cause toujours, tu verras. Enfin bon, il y avait toute une... Donc voilà, donc et à peu près dans le même temps, j'ai entendu parler de l'école de Beaujeu. Donc l'école de Beaujeu, il y a eu des émissions de Terre à Terre. Alors c'est une autre, je ne sais pas si le 10... samedi matin, non ?
C'était ouais, samedi matin sur France tôt. Culture, voilà. Par Ruth Stegassi.
Voilà. Et donc, elle a fait deux émissions sur l'école de Beaujeu. Et en fait, donc, moi, j'avais entendu parler de cette école qui formait à la biodynamie. On a travaillé avec Emilia Aslip aussi. Enfin, on avait toute une approche très, très globale de l'agriculture. On avait aussi de l'architecture, un homéopathe. Enfin, vraiment, c'était très, très transversal. Donc, moi, c'est... Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des choses qui t'avaient marqué. Moi, c'est vraiment ça, parce que c'est là que, aussi, j'ai fait le lien entre ce qui est sensible et ce qui est matériel, comment on pouvait conjuguer les deux. J'ai entendu parler des jardins de Findorn, j'ai entendu parler de plein de choses que je ne connaissais pas. Moi, je suis d'une famille protestante. Voilà, c'est pas... C'est de la spiritualité religieuse, on va dire. C'est pas du tout... Comment on peut dire ça ?
Alors là, elle vient nous faire un signe de très carré pour la famille protestante et un signe de spirale qui part de la tête pour pas du tout...
Pas de la tête, elle part de...
Enfin,
de part,
du corps, quoi, allumée, quoi.
Voilà, légère, on va dire.
Légère, c'est plus joli, effectivement, c'est un peu plus positif. Décidément, il va falloir que je me revoie.
Enfin, bref, donc voilà, j'ai entendu parler de cette école. Et dans le même temps, il y a une copine que j'avais rencontrée à Anvers qui m'a parlé d'un homme qui s'appelait Pierre Rabhi, qui n'était pas du tout connu à l'époque et qu'il fallait courir. Je suis allée jusqu'à Paris. C'est pas le bout du monde, mais... Donc je suis allée à Paris, j'ai pris rendez-vous avec lui, avec le point Mulhouse. Donc je ne sais pas si j'en touche deux mots là, si on a cinq minutes.
Enfin, ouais, bah, on a cinq minutes.
On a cinq minutes, ok. Et donc en fait, Pierre Rabhi à ce moment-là, il était avec une association qui s'appelait donc le point Mulhouse et il travaillait avec le Burkina Faso. Donc c'est le pays dans lequel j'avais été, mais entre-temps il y avait eu un coup d'état, il avait changé de nom, il était devenu de Haute Volta, il était passé à Burkina Faso. Et donc l'homme Sankara, le président du Burkina, avait appuyé, on va dire, la démarche de Pierre Rabhi avec une association Rhône-Alpes de paysans là, pour créer un lieu qui était donc à Gorom-Gorom, donc limite sahélienne nord Burkina Faso. Et dans ce lieu, il y avait des gens qui venaient donc faire du tourisme intelligent, on va dire. C'est-à-dire, ils venaient faire des safaris photos, découvrir le pays, les gens. Et donc, ils arrivaient, ils faisaient des tours. Enfin bon, c'était tout un circuit touristique. Et le bénéfice du tourisme était investi dans la formation des paysans sur place. Et donc, les formations étaient faites par Pierre Rabhi et d'autres personnes, quoi. Donc, quand j'ai rencontré Pierre Rabhi, donc je crois que c'est la première personne qui ne m'a pas dit que j'étais complètement à côté de la plaque, mais qui m'a dit que c'était super intéressant d'avoir cette approche globale-là et que, justement, il aimerait bien que j'aille travailler avec lui au Burkina pour faire le lien, après, une fois que les gens ont fait la formation et qu'ils sont rentrés chez eux, faire le lien, voir comment ils mangent, la santé, enfin, faire le suivi, quoi. Donc moi, évidemment, j'hésitais beaucoup parce que j'étais inscrite à un Beaujeu. Puis finalement, j'ai fait le choix de faire la formation à Beaujeu. Et pendant que je faisais la formation, Sankara a été assassiné. Donc bon, j'avais fait le bon choix parce qu'après, ça s'est arrêté. Puisque comme Sankara, c'est lui qui soutenait ça. Après, quand il y a eu le coup d'État, bah, tout s'est arrêté, quoi.
Et il n'y a absolument aucun lien entre le fait que Thomas Sankara ait été assassiné et le fait qu'il y ait eu des politiques progressistes. Fin de l'intervalle politique.
Après, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire. Celle des services secrets.
Donc voilà, j'ai fait Beaujeu. Et puis, Et puis après avoir fait la formation, la directrice dans l'école de Beaujeu, pour juste, je vous ai parlé un peu du contenu, et en fait c'était un couple qui avait déjà 60-70 ans, hein, qui avait créé cette école, qui se voulait un peu université transversale. Et leur objectif, c'était donc que ce qu'on appelle changement de paradigme, maintenant tout le monde a ce mot-là à la bouche, donc ça ne veut plus dire grand-chose, mais en tout cas, comment aider des gens qui sont dans d'autres recherches, comment les aider à passer à l'acte, puisque c'était un certificat de spécialisation en agriculture, hein, donc c'était un diplôme qui était reconnu. Et ensuite, les jeunes pouvaient s'installer, enfin les jeunes ou moins jeunes, moi j'étais déjà plus si jeune, hein, mais on pouvait s'installer en agriculture et mettre en œuvre tout ce qu'on avait vu à Beaujeu, quoi. Et donc ensuite, la directrice, donc, elle m'a demandé si je voulais bien prendre sa suite à l'école et m'occuper de l'école, quoi. Et en fait, entre-temps, j'avais rencontré un compagnon, j'avais déjà un enfant. Et puis, ça ne s'est pas bien passé parce qu'eux, ils étaient dans une démarche pédagogique très descendante. C'est-à-dire, il y a le maître là, les gens qui sont en bas. Et puis, voilà, le savoir, il passe d'une tête aux autres. Et basta. Et nous, on était dans une démarche le contraire, donc très horizontale. Et on disait, les gens, c'est important qu'ils participent. Donc, on avait remonté la ferme, on avait créé des liens entre la pratique, la théorie, etc. Et en fait, plus on apportait des pratiques participatives, et moins ça a collé avec la directrice, quoi. Donc, on a fini par partir. Voilà. Et puis, donc ça, ça a été un gros... Enfin, après... Déception, c'est toujours pareil. Hein. Je dirais maintenant, vu que j'ai un âge avancé, je peux...
Non, mais à t'entendre, on dirait que tu as 92 ans.
Voilà, exactement.
Au moins.
Alors, non. C'est faux, chers auditeurs. Vous savez que c'est faux, elle ment. Pas du tout 92 ans.
Non, mais ça fait partie de tout ce qui a été difficile à traverser et qui m'a permis, justement, parce que tu me demandes comment je suis arrivée au livre, ben, ça a permis, justement, d'arriver un jour à qui je suis aujourd'hui, quoi. Donc voilà, donc après, bon, j'ai fait différentes choses, des contrôles pour la biodynamie, parce que moi, j'étais à l'époque très branchée biodynamie, donc je faisais des contrôles dans des fermes, et j'ai beaucoup aimé, bon, faire les contrôles, c'était pas tellement ça, mais c'est rencontrer des gens, voir leur système, comment ils organisaient, comment ils travaillaient, leur motivation, qu'est-ce qui les avait amenés à faire ce qu'ils faisaient, etc. Donc ça m'a beaucoup apporté. Après, il y a eu les lois européennes, donc je suis devenue contrôleuse EcoCert. Donc EcoCert, c'est un organisme qui faisait les contrôles. Et là, bon, au bout d'un moment, c'était un peu rasoir parce qu'il fallait... En plus, on avait un ordinateur qu'on mettait devant les gens, on remplissait sur ordinateur. Bon. Donc voilà, j'ai arrêté. Et après, je me suis dit, mais en fait, ce qui me motivait vraiment, c'était de proposer des formations. Et encore aujourd'hui, c'est ça que j'aime. Moi, c'est créer des formations et les proposer aux gens et les faire. Et puis faire venir des intervenants. Et voilà, pour faire... Alors, moi, ce qui me motive, on va dire, c'est... Il y a plusieurs choses, mais en gros, c'est quand même vraiment que l'être humain arrive un peu ce que disait Lucie tout à l'heure, c'est-à-dire d'être en harmonie avec la planète, mais en harmonie aussi, donc ce que tu dis aussi toi, Floem, que l'intérieur, ça va avec l'extérieur, quoi, et que si on est en paix, en harmonie à l'intérieur, ça peut être, on peut faire des beaux jardins et tout ça, mais que si on est en guerre à l'intérieur de soi, eh ben, on va prendre des pesticides, on va donner des coups, on va tout labourer, on va... faire des lignes de poireaux, enfin bon, c'est, pour moi c'est vraiment le miroir, quoi.
T'aimes pas les lignes de poireaux?
Non, c'est, j'aime bien de mettre au même niveau, de prendre des pesticides et de mettre les poireaux en ligne. Bon, moi je serais un peu plus, je dirais, bon, des fois c'est moins grave de mettre les poireaux en ligne que d'utiliser de l'atrazine pour désherber son champ.
Oui, voilà, mais c'est juste une image, si tu... parce que quand on fait plein de poireaux, alors j'aurais pas dû dire une ligne de poireaux, mais plein de lignes de poireaux, quoi. Voilà, quand on fait un jardin où la terre est nue, où il y a des lignes de poireaux, enfin c'est triste, quoi. Et je pense que c'est triste parce que la personne qui le fait, elle-même, elle est triste, enfin, ou elle est dans quelque chose qui est pas harmonieux, quoi. Donc voilà, donc ce qui me plaisait, c'était de faire passer ça aux gens. Donc voilà, j'ai commencé à... Comme j'étais au chômage à l'époque, donc j'envoyais mes CV. La seule fois de ma vie, je crois, où ça m'a servi d'envoyer un CV, c'est quand le directeur du CFPPA de Belay, dans l'Ain, m'a dit « Ah ben, le poste pour lequel vous avez répondu, il est pris, mais par contre, je garde votre CV parce que ça serait intéressant peut-être un jour de faire une formation à la bio ». Et un jour, il m'a rappelé et il m'a dit « Faites ce que vous voulez comme formation. » C'était pour du public en difficulté, mais déjà surtout des femmes qui étaient licenciées ou qui se retrouvaient sans rien. Et c'était de les accompagner pour monter des projets professionnels en agroécologie pour qu'elles s'installent, que ces personnes s'installent et vivent de leur activité en agroécologie. Donc ça, ça a été super. Et il m'a vraiment laissé faire ce que je voulais. Donc j'ai monté le programme, j'ai fait. Donc c'était sur 4 mois. Donc voilà. Et c'est ça que j'aime encore aujourd'hui, quoi. Sauf que maintenant, oui.
Et si tu nous racontais tout ça juste après la pause musicale? Et oui, nous sommes sur Couleur FM, c'est le moment d'écouter un petit peu de musique.
Buscaba comprender la estúpida razón que me hizo descolgar la línea de mi corazón para dejarte en el pasado y así resucitar la antigua timidez que desde mi niñez no me dejó decirte cuánto, cuánto te quería. Me venís a buscar, yo me dejo llevar. Me sorprende al notar cómo me hace temblar tu presencia sensual. Mostraba sin querer los hombros, mi lunar, sin poderme atrever a abrir el resplandor oculto en mi mirada. Nos sentamos los dos en el mismo lugar. Estalla la emoción, se levanta el telón y vuelvo a comprender la estúpida razón que me hizo descolgar la línea de mi corazón para dejarte en el pasado. Me sorprende al soñar, soy la diosa fatal. Mi caricia se va y no quiero volver a la cruel realidad. Cuando voy a salir de mi caparazón sin pensar ni sufrir, ser feliz, simplemente volcar por vos, yo quiero darte amor.
Voilà, comme annoncé sur Couleur FM 97.1, nous venons d'entendre Catherine Ringer, rappelez-vous le groupe Rita Mitsuko avec Fred Chichin, dans Timidé de l'album Plaza Francia, A New Tango Songbook. Ce tango argentin, si universel et si français par sa sensualité, poésie enivrante des quartiers.
Nous sommes toujours, surtout, avec Lucie et Hélène. Et Hélène nous parlait de son parcours. Elle était au CFPPA. Alors, je n'ai pas encore compris ce que c'était qu'un CF. Ça doit être un centre de formation pour permaculteurs adultes. Non, ce n'est pas ça.
Adulte, oui.
Adulte, d'accord.
C'est un centre de formation pour les agriculteurs, pour les, en agriculture, pardon.
Et puis à ce moment-là, donc, tu as mis sur pied ta propre formation.
Ta première formation en agroécologie, on va dire, vraiment structurée, puisque avant, j'avais été en Afrique beaucoup, donc avec Pierre Rabhi, et j'avais formé des agriculteurs, des paysans sur place, mais là, je faisais un peu, voilà, un peu comme ça venait. Alors que là, j'ai structuré une formation qui, en fait, n'a pas beaucoup, beaucoup bougé après, c'est-à-dire qui allait un peu comme le chemin dans notre livre, c'est-à-dire depuis la terre et jusqu'à l'être humain. Et donc ça, on va dire, les formations, j'ai à peu près toujours continué. Ce qui a beaucoup changé, c'est le public. Et puis l'expérience aussi que j'ai eue avec mon compagnon à Laborie, là, puisqu'on a... On a travaillé, alors ce serait une longue histoire, mais en gros, c'était un lieu qui devait être noyé par un barrage. Les gens se sont battus contre le barrage et ils ont gagné, ce qui était déjà extraordinaire. Mais après, une fois qu'ils ont eu gagné, ils se sont bouffés le nez entre eux pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ce lieu.
Ce qui est beaucoup moins extraordinaire.
Beaucoup moins extraordinaire, oui.
Et oui. Je voulais demander, vous avez dit un changement de public, dans quel sens
Disons que par exemple, la première fois, c'était des gens, des femmes surtout, qui étaient donc licenciées et qui voulaient créer leur propre travail. Après, bon, je travaille beaucoup avec Terre Humanisme, une association qui a été créée par Pierre Rabhi. Ce sont beaucoup des personnes qui ont écouté des conférences, qui sont déjà, on va dire, intéressées, motivées par l'agroécologie ou d'autres aspects, biodynamique ou autonomie, enfin différentes choses. Et puis maintenant, ce que je fais, c'est que j'aime bien aussi travailler avec... n'importe qui, c'est pas péjoratif, mais avec des gens qui sont... par exemple, je travaille avec l'OPAC de l'Isère, donc c'est un bailleur social qui a accompagné des gens d'un quartier HLM qui était plutôt pas mal famé, mais plutôt mal vu, en tout cas, par l'environnement local. Et donc, ils ont transformé en square, enfin, nous avons ensemble transformé en square, un square en jardin. Jardin partagé. Et donc ça, c'est des gens des gens classiques, quoi. Et ce que j'aime, c'est avec des gens comme ça, justement, parler des travaux de Masuro Emoto, d'approche sensible, de la qualité de l'eau, de plein de choses qu'ils ne vont sûrement pas entendre, avoir à la télé ou autre chose. Et en fait, les gens sont très intéressés par ça. Et voilà. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est aussi ne pas travailler qu'avec des gens avertis, mais aussi avec des gens qui le sont beaucoup moins, mais qui sont quelque part en demande de ça, parce qu'intérieurement, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de voir de la beauté, ils ont besoin de penser qu'on peut faire autrement, qu'ils ne sont pas que des bêtes à acheter des choses dans un magasin, etc. quoi. Et pour moi, l'agroécologie, justement, c'est aussi ça, c'est participer à la prise de conscience, la prise de conscience, c'est moche, on dirait des prises de courant, mais à faire avancer la conscience de chacun sur la responsabilité qu'on a par rapport à la planète, mais aussi par rapport à notre santé propre. Quand on fait des choix, comment on est... responsable dans les choix, quels qu'ils soient, que ce soit les vêtements, que ce soit des lunettes, un stylo, n'importe quoi. Quand on achète quelque chose, on favorise quelqu'un. Et qui est-ce qu'on veut favoriser? Est-ce que c'est le paysan d'à côté? Est-ce que c'est l'entreprise qui est à côté? Ou est-ce que c'est des Chinois? Ou est-ce que c'est... on parle toujours des Chinois, là je le fais aussi, mais finalement je pense que les Américains c'est pire, ou les Japonais, enfin voilà, qui est-ce qu'on a envie de soutenir, et quelle économie on a envie de soutenir, et tout ça. Et donc ça, je pense que, enfin pour moi, c'est quelque chose de... c'est ça qui me motive, quoi, de faire passer ce genre d'approche, et puis de voir le lien qu'il y a entre l'acte qu'on a au quotidien et les répercussions que ça va avoir sur l'économie, sur l'environnement, à tous les niveaux, quoi. Voilà.
Moi, maintenant, je te remercie beaucoup, Hélène. J'aimerais bien parler de Titane, parce que Titane est une... Ah non.
Non, mais Titane, est-ce que vous avez
combien Titane est une grande dame. Titane est une grande dame, mais d'une humilité... confondante, si bien qu'elle ne voudrait pas parler d'elle-même, mais moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu fais dans une émission de jardin, Titane. Titane Ben, qui est ici, semble-t-il, dans cette maison, limite une vestale gardienne des clés, parce qu'elle s'occupe de plein d'émissions, mais qu'est-ce que tu fais dans cette émission? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a porté à lancer ça?
Bien, le jardin, ça m'intéresse. Je suis un peu tombée dedans également, étant jeune. J'ai été pendant une vingtaine d'années en Afrique, et quand je suis rentrée, il y a tout de même des gestes que l'on garde. Par exemple, l'eau est très très précieuse. Et encore maintenant, quand je nettoie mes salades ou mes tomates, mon eau, je vais la jeter dans le jardin. Ce sont des choses du côté de mes grands-parents maternelle, ils avaient des propriétaires terriens, etc. Donc j'ai toujours été baignée dans les animaux et la nature. Mais j'ai un gros problème, c'est que mon jardin ne m'écoute pas. C'est-à-dire qu'il pousse, oui, au début, je vais passer trois étés à bien ranger mon jardin. Et au fur et à mesure, il prend lui-même sa place, il change. On me dit que je travaille le jardin comme un pygmée. Alors, je voulais un peu en savoir un peu plus.
Je ne sais pas comment travaille le pygmée. J'imagine qu'il travaille beaucoup.
C'est-à-dire que dans des endroits inattendus, on ne peut pas passer facilement une tondeuse à gazon, par exemple, parce que tout à coup... Mais attention, là, dans ce petit carré, j'ai une plante très précieuse. Et il est vrai que je n'utilise pas non plus les de produits chimiques, parce qu'il y a les écureuils, il y a les hérissons, et j'ai toujours peur que ces animaux ou les oiseaux... voilà, donc moi, je viens vers vous, les spécialistes, pour un peu me en connaître plus et faire partager justement ce savoir que vous avez étudié et... également, c'est vrai que j'ai toujours été dans la récup, dans la récupération. Ça a toujours été.
Avec 20 ans de pratique de jardin, je ne sais pas si je vais pouvoir t'apprendre beaucoup de choses, Titane.
Si, parce que j'ai l'impression que je n'avance pas, mais que je recule.
Oh là là, ça ne se produit pas.
Non, mais enfin voilà, c'était pour avec un grand plaisir de partager et de travailler ensemble le jardin et d'avoir la possibilité peut-être de se retrouver dans le jardin de cette radio. Et...
Oui, parce qu'il y a ça comme projet aussi. Mmh. C'est l'idée de travailler ici, dans cette radio, avec le jardin qui fait 800 mètres carrés, éventuellement avec les habitants autour, et que ça puisse aussi être leur émission à eux aussi, éventuellement. Mmh. Et en même temps, tu es consciente qu'on ne va peut-être pas parler que de jardin tout le temps, parce que moi, mon truc, c'est la permaculture, hein, c'est pas le jardin.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors,
entre l'agroécologie et la permaculture, qui est, pour moi, c'est la même chose, non ?
Et là, on se regarde en rigolant, Hélène et moi. Eh bien, vas-y, essaye-toi, et puis ensuite, j'essaierai moi, et oui. Puis si jamais...
Oui, on n'a pas la même... Bon, parce que pour moi, la permaculture et l'agroécologie, disons que ce sont les mêmes bases, c'est-à-dire favoriser la vie, que ce soit dans la terre, dans la plante, avoir une approche qui va permettre, oui, vraiment l'autonomie de la plante, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir se débrouiller avec la terre qu'on va éventuellement améliorer, etc. Et pour moi, donc, par exemple, dans notre livre, dans l'agroécologie, on a mis la permaculture comme on a mis la biodynamie. Et de la même façon, tu aurais pu nous dire, quelle est la différence entre la biodynamie et l'agroécologie. Mais comme ce sont les mêmes bases, nous, on a mis à l'intérieur. Et après, dans l'agroécologie, c'est vraiment... C'est pas que... même si on entend agro, c'est quand même l'écologie très transverse, c'est-à-dire avec l'aspect humain, l'aspect environnemental, l'aspect esthétique, l'aspect économique, etc. Donc, pour moi... Il n'y a pas de différence. Après, je dirais que ce qui peut faire aujourd'hui la différence, c'est que l'agroécologie n'est pas estampillée, alors que la permaculture est très organisée, il y a des certificats, il y a des choses comme ça. Alors que l'agroécologie, tous ceux qui ont envie de dire qu'ils font de l'agroécologie, c'est pas comme l'agriculture biologique, on ne va pas dire, vous avez un cahier des charges à respecter. Mais voilà, sinon on travaille par exemple sur les formes, on travaille sur le paysage. Alors ce qu'on appelle design en permaculture, moi je vais l'appeler environnement du jardin ou faire comment on crée son jardin. On va avoir d'autres mots parce que la permaculture c'est quand même beaucoup passé par les pays anglophones. Mais moi je travaillais beaucoup avec Emilia Haslip et on travaillait, on faisait des expériences, on faisait plein de choses. Et pour moi ça fait partie de l'agroécologie, quoi. Et en plus moi j'aime pas, déjà l'agroécologie c'est déjà un peu une étiquette même si elle est très ouverte. Les permacultures, pour moi, c'est un petit peu cet effet de mode et de d'enfermement, enfin de rail, quoi. Et pour moi, dans l'agroécologie, il y a une ouverture, une liberté et il n'y a pas de tampon, quoi.
Ce qui est rigolo, c'est que moi, je dirais de la même chose de la permaculture, parce que moi, j'ai l'impression que la permaculture, c'est une approche intégrative où chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, on se dit « Ah, mais ça, c'est de la permaculture !» Et « Ah, ça aussi, c'est de la permaculture !» Chaque fois qu'il y a quelque chose qui éclot et puis qui répond à ces règles éthiques de base, on dit « Ah, mais ça, c'est de la permaculture !» J'ai vu passer... dans un groupe de discussion sur la permaculture, aujourd'hui même, une photo de Maria Montessori en disant « Ah, ça, c'était une permacultrice très douée dans son domaine. » Mais son domaine à elle, c'était l'éducation, mais avec le champ de réflexion de la permaculture. Et c'est probablement vrai, je ne connais pas le système Montessori, mais de ce que j'en connais, ça a l'air. Mais je ne suis pas complètement d'accord avec toi, mais je ne suis pas complètement d'accord non plus. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est en permaculture, surtout... Là, dans les années qu'on a maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu une charnière où on essaie d'être cadré justement pour ne pas être récupéré en pratique strictement culturelle. Parce que Mollison, c'était un écologue, ce qui fait aussi que du coup, il y a une approche un peu technicienne, il faut faire comme ci, comme cela, etc. Et ce n'est pas forcément un agriculteur, et il a beaucoup pris à Masanobu Fukuoka, et du coup, ça l'a rendu, je pense, un petit peu d'ailleurs paix à son âme. Il est décédé le 24 septembre dernier, Bill Mollison. Ça l'a rendu peut-être un petit peu rigide par rapport à certaines choses, du fait qu'il n'étant pas agriculteur à la base, je pense que ça l'a rendu un petit peu... voilà. De mon côté, j'ai l'impression qu'on est en train de vider la permaculture de beaucoup de choses de son sens actuellement, surtout en France, étonnamment, en la transformant en un genre de jardinage écologique. Et ça, c'est un truc qui m'embête, tout simplement, parce que bon, moi, j'ai un jardin, je fais pas mal de choses au jardin, mais le plus gros de mon travail de permaculteur, par exemple, c'est tâcher d'organiser les gens de mon quartier. Qui n'est pas du tout un travail agricole, mais qui rejoint ce que tu disais de l'aspect écologique élargi de l'environnement transversal. Et je pense que c'est sur ça qu'on se retrouve dans cette chose-là. C'est que, oui, on peut parler probablement de comment planter les poireaux pas en ligne, mais on peut aussi réfléchir à comment obtenir ces semences, et puis on peut aussi réfléchir au système financier qu'il y a derrière la production de semences, et du coup au système monétaire, et donc aussi aux questions de gouvernance, et ainsi de suite. Parce que, comme tu l'as dit, tout se tient.
Oui, voilà. Ça aussi. Quoi. C'est pour ça que moi, je vois pas y a pas de différence fondamentale. Quoi.
Donc moi, je pense qu'il n'y a pas énormément de différence. Je pense que c'est une question de mots, il y a aussi une question de mode, il y a une question en permaculture d'éthique et entre guillemets de principes posés qui sont exportables à tout niveau dans les champs comme dans les chambres. Voilà.
Thank you.
FM 97.1. Pour finir, nous venons d'écouter Kenneth Dahl Knudsen à la basse et son groupe dans Green Point de l'album Strings Attached.
Bien, merci Titane. On a un petit peu raconté nos parcours les uns les autres. Peut-être qu'on peut parler aussi de l'émission. Floem, est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer quelles sont les grandes lignes et qu'est-ce qui nous attend pour les émissions à venir?
Oui, bon, on va pas se regarder le nombril très longtemps, mais on fera, ce sera mieux. Mais l'idée, c'est évidemment de faire une émission autour de l'agroécologie, de la permaculture, du jardin essentiellement, en lien avec le jardin qu'on arrivera à mettre en œuvre ici directement à la radio. L'idée, c'est d'apporter aux gens des questions sur leurs propres questions, des réponses. L'idée, c'est d'apporter aux gens des réponses sur leurs propres questionnements de jardin, même d'environnement au sens large. Donc la manière qu'on va avoir de travailler dans cette émission, on va systématiquement avoir un thème principal de l'émission qui va occuper à peu près la moitié de l'émission, une demi-heure environ. En début d'émission, on aura des questions des auditeurs et du coup des réponses aux auditeurs. Alors on vous prendra pas en direct, désolé chers auditeurs et auditrices. On va attendre que vous nous écriviez des mails
éventuellement sur...
Alors l'adresse, ce sera... contact@radioperma.org, radioperma.org, tout attaché, contact@radioperma.org. Ou si jamais vous arrivez à nous trouver sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez, les choses vont se caler peu à peu. Et en fin d'émission, eh ben, on aura 10 minutes, un quart d'heure, où on se fera une petite assiette anglaise.
Récréation.
Voilà, c'est ça, une récréation. Ou peut-être on vous parlera des livres qui nous ont plu, qui nous ont touchés, des événements jardins du coin. Peut-être d'une œuvre, ce sera peut-être artistique. Voilà, ce sera...
Des anecdotes à partager.
Des anecdotes à partager. Ce sera un petit peu plus léger. Si. Pour le conducteur de cette émission, ça va ressembler à ça. Et on commencera dès la semaine, dans 15 jours. On va travailler sur les plantes sauvages comestibles et autrement utiles.
Que l'on trouve dans son jardin?
Alors oui, celles-ci, on les trouvera dans le jardin en automne, puisque idéalement, on aimerait bien arriver à faire une émission par saison sur le thème des plantes sauvages comestibles et autrement utiles. Si on arrive à trouver des gens, mais il y a plein de ressources dans le coin. Donc si jamais vous avez des questions sur ce thème-là, vous pouvez nous les envoyer, contact@radioperma.org. Voilà pour ce à quoi ressemblera cette prochaine émission. Parfois on aura des reportages, de temps en temps on aura des intervenants en studio avec nous, ça dépendra. Toi Lucie, si j'ai bien compris, tu seras notre correspondante.
Une correspondante, voilà.
Tu vas sillonner la France.
Délocalisée en fonction de mes déplacements et des personnes que je trouverai à interviewer, qui seront en lien avec la permaculture et l'agroécologie, les deux. Et peut-être pas toujours en lien direct avec le jardin, mais il y a des ponts qui peuvent se faire très facilement en général. Hélène est assez spécialiste et puis
faire des
discuter
ponts,
un peu pour faire des liens, voilà.
Et puis, comme dit Hélène, son fil en fait tangent, c'est la santé. C'est toujours ça mène à la santé, nous tenir en forme et en bonne santé.
Bon, ben voilà, ça a l'air d'être bien bouclé pour cette première.
On peut vous redemander à chacun vos sites.
Oui. Alors, en tout cas, Lucie,
oui,
et
moi,
Floem.
J'ai pas de site spécifique.
Et ouais, on fait partie de Radio Perma, une petite officine de production de sons permaculturels. Donc ça s'appelle radioperma.org. Vous pouvez nous faire des dons aussi pour nous soutenir dans nos activités. Oui, on fonctionne beaucoup par dons, on ne se fait pas spécialement.
On n'a pas de publicité.
Ouais, oui, on refuse ça et on ne prend pas de subvention non plus. Là où il y a subvention, il n'y a plus subversion.
Il
n'y
a que subversion.
Il n'y a pas subversion. Radioperma.org pour nous. Et vous pouvez réécouter aussi les émissions. On en a un bon paquet.
Oui, j'en ai écouté quelques-unes. Et pour Cultivons la...
C'est cultivonsnosjardins.fr ou .org. Et en fait, c'est un nom qui a été choisi puisque c'est Cultivons nos jardins dont on a parlé jusqu'à présent. Et aussi Cultivons nos jardins intérieurs au sens de ce qu'on fait avec soi, à l'intérieur de soi et comment on peut être mieux intérieurement.
Voilà, et puis pour la radio, évidemment, c'est Couleur FM, mais Couleur avec S, parce qu'autrement, vous allez trouver une radio Couleur sans S qui se trouve au Canada, du côté de Montréal.
D'abord.
Ce qui est splendide, mais c'est pas nous.
Mais c'est pas nous. Donc Couleur FM avec S. Voilà, nous allons nous préparer maintenant à vous retrouver pour la prochaine émission. Mm-hmm. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne quinzaine à vous, bon début novembre.
Et
merci.
À bientôt.
À bientôt.
Et merci Laurent.
Ah, merci Laurent, la technique. Merci.